Merci beaucoup pour vos encouragements. Donc à mon tour de vous encourager. En tout cas, que le Seigneur puisse vous encourager au travers de sa parole, c'est surtout ça. Il nous a laissé cette parole si précieuse pour que nous puissions être équipés, nous puissions être fortifiés et que nous puissions remporter les différents défis aussi qui se présentent à nous dans notre existence, dans le cours de notre vie. On va ensemble d'abord rebondir un peu sur l'actualité, comme cela a été vient d'être dit par Laurent le 29 août dernier. Le départ de la 107e édition du Tour de France a été donné. C'est une course qui depuis longtemps existe en France, extrêmement populaire. 176 coureurs cyclistes se sont élancés depuis Nice pour remporter cette compétition. Et ceux qui iront jusqu'au bout de cette course auront parcouru plus de 3400 km cette année. 3400 km. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens ici ce matin ou qui nous regardent par le biais d'Internet qui imaginent pouvoir faire 3400 km en vélo? Non, hein, pas énormément. On se rend compte que c'est une performance incroyable. La distance d'une étape, j'ai regardé ça là cette année, c'est généralement entre 170 et 190 km. Et la dernière étape du Tour de France qui ira de Mantes-la-Jolie jusqu'aux Champs-Élysées, jusqu'à Paris, ce sera 122 km. Donc, alors 122 km, je pense qu'il y en a certains ici qui peuvent tout à fait l'envisager, faire 122 km en vélo. Il y a un des deux pasteurs de cette assemblée qui est venu en voiture, mais qui va rentrer chez lui en vélo. Alors, un petit indice, c'est pas moi. Mais je pense que 122 km, ça lui fait pas peur. Il est capable de l'envisager. C'est moins évident pour la plupart d'entre nous, mais ce qui est certain, c'est que ça demande du courage. Là, envisager parcourir une telle distance, faire un tel effort, ça demande du courage. Et c'est un courage qu'il faut déployer pour pouvoir remporter la victoire, pour pouvoir aller jusqu'au bout de la course. Les sportifs en général, on est en train de parler du Tour de France, mais d'une manière beaucoup plus générale, les sportifs sont appelés à faire preuve de courage. Et c'est intéressant de noter que l'apôtre Paul a utilisé lui-même le sport pour illustrer la vie chrétienne. Et c'est avec ces images empruntées au sport, il souligne le courage que demande la vie chrétienne. Le courage que nous sommes appelés à engager pour pouvoir remporter la victoire. Le sport était déjà très populaire à l'époque de l'apôtre Paul, en particulier dans la culture grecque. Il y avait de nombreux jeux qui étaient organisés à l'époque du Nouveau Testament. En Grèce, toutes les grandes villes de Grèce organisaient des jeux au moment où ils célébraient leurs fêtes religieuses les plus importantes. Donc c'était des jeux locaux. Mais les jeux les plus populaires, c'était ceux qui réunissaient les athlètes des différentes villes de Grèce, ceux qu'on appelait les Jeux panhelléniques, parce qu'ils réunissaient tous les Hellènes ou tous les Grecs. Les plus connus de ces Jeux panhelléniques, vous les connaissez certainement, ils auraient dû avoir lieu cette année, mais ils ont été annulés en raison de la pandémie, ce sont les Jeux olympiques, célébrés tous les 4 ans en l'honneur du dieu Zeus, du dieu grec Zeus. Depuis une époque immémoriale, les Jeux olympiques ont sans doute pris naissance avant le 8e siècle, avant notre ère, 800 ans avant la naissance de Jésus. Et ils ont été célébrés pratiquement sans aucune discontinuité jusqu'à la fin du 4e siècle de notre ère, pendant un millier d'années pratiquement. Et ces Jeux olympiques, on les connaît aujourd'hui parce qu'ils ont été remis en œuvre à la fin du 19e siècle, en 1896 précisément, et c'est ce qui fait que tous les 4 ans maintenant, on a repris ce cycle de, quand il n'y a pas de problème, quand il n'y a pas de guerre ou qu'il n'y a pas de pandémie, de célébrer ces Jeux. Mais il y avait d'autres Jeux qui réunissaient les athlètes de différentes villes, d'autres Jeux panhelléniques. Il y avait les Jeux pythiques qui avaient lieu à Delphes en l'honneur du dieu Apollon. Il y avait les Jeux néméens qui avaient lieu dans une ville qui s'appelait Némée en l'honneur de Zeus également. Et puis aussi les Jeux isthmiques qui avait lieu à Corinthe, une ville que nous connaissons en tant que lecteurs de la Bible, puisque Paul a exercé son ministère à Corinthe, a adressé plusieurs lettres aux Corinthiens. Et il y avait aussi des jeux qui étaient organisés, où tous les athlètes de la Grèce venaient pour s'affronter dans différents domaines, le javelot, la course, la boxe aussi, tout ça existait à l'époque. Et les illustrations que le sport inspire à Paul nous enseignent 3 choses. En tout cas, 3 choses sur lesquelles nous pouvons nous pencher ce matin. Nous enseigne tout d'abord que le chrétien est appelé à avoir un but. Et j'aimerais lire avec vous ce passage que l'on trouve dans la lettre aux Philippiens, au chapitre 3, et on va lire les versets 12 à 14. Et Paul écrit « Je ne prétends pas avoir déjà atteint le but ou être déjà devenu parfait. Mais je poursuis ma course pour m'efforcer d'en saisir le prix, car j'ai été moi-même saisi par Jésus-Christ. Non, frère, je ne pense pas avoir déjà obtenu le prix, mais je fais une chose. J'oublie ce qui est derrière moi et m'efforce d'atteindre ce qui est devant moi. Ainsi, je cours vers le but afin de gagner le prix que Dieu, par Jésus-Christ, nous appelle à recevoir là-haut. » Dans l'Antiquité, à l'époque où Paul écrivait ces lignes, les athlètes avaient un but qui était clair, remporter la victoire au nom de la ville qui les déléguait. Même si tous les athlètes se réunissaient à Olympie, ils venaient pour représenter leur ville d'origine. Il pouvait y avoir des athlètes qui venaient de Corinthe et qui allaient faire une course, par exemple, à Olympie. Et ils venaient en tant que représentants de la ville à laquelle ils appartenaient. Ils ne participaient pas aux Jeux pour eux-mêmes, mais pour la ville qu'ils représentaient. Ils étaient très fiers d'avoir été sélectionnés, parce que la sélection est très, très difficile, et de porter les couleurs de leur ville. Et pourquoi combattaient-ils ? Pourquoi est-ce qu'ils s'engageaient dans cette compétition ? Au jeu ismique, au jeu qui se déroulait à Corinthe, le vainqueur recevait une couronne. Il recevait une couronne de céleri. Alors, je vous rappelle rapidement qu'est-ce que c'est que le céleri. Voilà une photographie. Qui serait prêt à faire une course de 122 km aujourd'hui pour gagner une couronne de céleri ? Je ne pense pas que ce serait une très forte motivation. Mais en fait, les athlètes qui venaient participer aux Jeux ismiques, ils venaient participer à ces compétitions pour gagner une couronne de céleri. Ce n'est pas très précieux. Ça n'a rien à voir avec les primes que les sportifs peuvent gagner aujourd'hui lorsqu'ils remportent des victoires. Mais la performance de l'athlète, elle n'était pas du tout accomplie pour sa gloire à lui. Elle n'était pas accomplie pour sa richesse. L'athlète ne recherchait pas son intérêt personnel. Son but était ailleurs. Sa performance était au service de la ville à laquelle il appartenait et qu'il allait représenter lors de ces Jeux. Il se battait, pas pour lui, mais pour quelque chose qui était plus grand que lui, pour quelque chose qui le dépassait. La société nous encourage à nous assurer les meilleures conditions d'existence. Et elle nous encourage, en le faisant, en répondant à tous nos besoins personnels. Nous sommes encouragés à assurer nos meilleures conditions d'existence en faisant en sorte de n'être frustrés dans aucun domaine. Et c'est la raison pour laquelle nous investissons beaucoup d'efforts pour gagner de l'argent, pour être reconnu, pour être aimé, pour être apprécié, beaucoup d'efforts pour fonder une famille, pour avoir une bonne situation professionnelle. Toutes ces choses sont bonnes et toutes ces choses demandent du courage. Ça demande du courage de se préparer pour exercer un métier. Ça demande du courage aussi de fonder une famille. Ça demande du courage de pouvoir être performant au niveau professionnel. Mais considérer toutes ces choses comme des buts ultimes nous conduira inévitablement à la déception. Soit parce qu'à un moment donné, nous pouvons connaître l'échec. Nous pouvons connaître l'échec dans les études qui devaient nous mener à la profession que nous voulions exercer. Nous pouvons connaître l'échec dans le domaine professionnel parce que les choses n'ont pas tourné comme nous l'avions souhaité ou nous l'avions envisagé. Nous pouvons connaître l'échec au niveau sentimental, au niveau de notre mariage aussi, à cause des séparations. Soit nous connaissons l'échec, soit nous pouvons connaître l'échec, soit nous connaissons la frustration, parce que quand nous avons tout, et lorsque nous réussissons dans tous les domaines de notre vie, le cœur humain est ainsi fait qu'il en veut encore plus et qu'il en veut toujours plus. Et vous avez des gens qui réussissent dans tous les domaines de leur vie, mais qui fondamentalement ne sont pas heureux, parce qu'ils ont encore soif d'autre chose. Ils veulent que leur cœur soit encore plus alimenté. Mon but en tant que chrétien, c'est pas seulement d'inclure Dieu dans mon programme personnel de vie. C'est pas simplement de demander à Dieu, Seigneur, sois là et bénis mes études. Seigneur, sois là et donne-moi le succès dans mes études. Seigneur, bénis mon travail. Seigneur, bénis mes projets professionnels. Seigneur, bénis ma santé. Seigneur, bénis ma famille. Le but du chrétien, c'est d'élargir sa vision. C'est d'avoir une vision beaucoup plus large que cela et d'apprendre à être ce que Dieu demande ce que je sois et à faire ce que Dieu demande que je fasse. Lorsqu'on connecte avec Dieu, lorsqu'on reçoit Jésus dans sa vie et dans son cœur, on reconnecte avec la source de vie et on devient un adorateur. Et Dieu veut que nous soyons des adorateurs. Parce que il prend son nous prenons notre plaisir dans la présence de Dieu, mais Dieu prend son plaisir dans notre présence aussi. Et être un adorateur, c'est être ce que Dieu veut que je sois. Et lorsque je célèbre Dieu comme nous l'avons fait ce matin, j'accomplis ce que Dieu veut que j'accomplisse. Nous vivons pour quelque chose qui est beaucoup plus grand que nous-mêmes. Nous avons un autre but que notre simple épanouissement personnel. Dieu nous demande d'être un témoin. Nous avons reçu une espérance extraordinaire lorsque nous connaissons Jésus et que nous réalisons ce qu'il a accompli à la croix, qui nous permet de retourner vers Dieu et que Dieu, dans son amour, nous accueille parfaitement. Ça nous donne envie de partager cette espérance. Ça nous donne envie de partager cet amour et cette joie. Et là, ce qui est entrepris à l'occasion du passage du Tour de France à Mantes-la-Jolie, c'est vraiment dans cet objectif. Ce que nous connaissons, nous voulons le partager. Et là, nous sommes appelés à devenir aussi ce que Dieu veut que nous soyons. Nous sommes appelés à être des sources de bénédiction et d'édification les uns pour les autres. Nous pouvons avoir une parole qui va pouvoir nous encourager, nous fortifier, là, au travers de l'Église que nous constituons. Et lorsque nous réalisons cela et que nous nous programmons pour nous aider, nous édifier, nous encourager les uns les autres, nous accomplissons ce que Dieu veut que nous accomplissions. C'est un but qui est au-delà de nous-mêmes. Et c'est ça qui est appelé à nous motiver dans la course de notre existence, dans la course de notre vie chrétienne. Le but du chrétien, c'est que Dieu soit glorifié en toutes choses. Le but du chrétien, c'est que Dieu soit connu tel qu'il est véritablement. Que les gens ne soient pas prisonniers d'une fausse idée ou d'une fausse image de Dieu comme tellement c'est autour de nous. Le but du chrétien, c'est de montrer que le monde dans lequel nous vivons peut être différent lorsque l'on connaît Jésus. Qu'il peut être différent lorsque Christ vit dans notre vie, lorsque nous avons reçu son esprit. Que le monde n'est pas forcément un monde de critique, de jugement ou de compétition où nous sommes appelés à nous marcher les uns sur les autres. Mais que ce monde peut être un monde de respect, un monde d'écoute, un monde de générosité, un monde d'encouragement. Et c'est possible si je regarde à quelque chose de plus grand que moi-même. Si nous invoquons Dieu, ou si Dieu n'est dans notre vie simplement que pour nous aider pour les choses de la vie courante, quelle sera la différence entre nous et ceux qui ne connaissent pas Dieu? Dieu n'est pas à notre service, nous sommes au service de Dieu. Et il va accomplir des choses extraordinaires, de grandes choses au travers de chacun d'entre nous. Si nous réalisons qu'au travers de Jésus, notre existence a un but, vivre pour quelque chose de plus grand que nous-mêmes, vivre pour sa volonté et son royaume. Ça demande du courage, ça. Ça demande du courage parce que ça nous demande de regarder au-delà de nous-mêmes, au-delà de nos simples intérêts, alors que naturellement, nous sommes tournés vers nous-mêmes. Ça demande du courage de reconnaître que j'ai besoin de Dieu parce que dans tout ce que j'ai évoqué, je ne vais pas forcément tout faire parfaitement et du premier coup. Mais je peux me remettre entre les mains de Dieu et lui demander qu'il puisse m'aider d'aller vers cela. Ça demande du courage de renoncer à soi-même, comme le dit Jésus, pour accomplir une œuvre encore plus grande que celle de ma vie. Une œuvre plus grande que celle de ma vie. J'ai été marqué par cette réponse qu'un athlète qui a participé aux Jeux Olympiques de Mexico en 1968 avait fait à un journaliste. Je vais vous parler de John Stephen Akwari, qui était un athlète tanzanien. Il venait de Tanzanie et il a participé au marathon. Alors, vous savez, le marathon, c'est cette course folle de 42 kilomètres. Courir 42 kilomètres, ça aussi, il faut du courage pour ça. Hein. Et après un peu plus de 20 kilomètres de course, Akwari est tombé. Il a fait une chute parce qu'il n'était pas habitué à courir en si haute altitude. Mexico, ça se trouve à 2240 mètres d'altitude. Et donc, c'est beaucoup plus élevé que la Tanzanie. Et dans sa chute, il s'est gravement blessé le genou droit et l'épaule. Il s'est fait bander la jambe. Il y a les soigneurs qui sont venus. Et il s'est relevé et il a continué. Il a continué, mais il n'avait plus les mêmes forces pour pouvoir continuer. Mais il a quand même continué. Il a continué en boitant. Quelquefois, il s'est arrêté. Quelquefois, il a marché. Mais à chaque fois, il a repris sa course. Et il était un peu plus de 19h le soir lorsque Akwari est arrivé dans le stade de Mexico. Et le vainqueur, le premier qui était arrivé, celui qui a gagné le marathon cette année-là aux Jeux Olympiques, ça faisait plus d'une heure, lui, qu'il avait franchi la ligne d'arrivée. Mais Akwari, il est allé jusqu'au bout. Et le stade avait déjà commencé à se vider. Mais il y avait les derniers spectateurs qui étaient là, qui se préparaient à partir, et puis d'un seul coup, ils ont vu les photographes, les flashs des appareils photos qui crépitaient, et les sirènes de police là, qui ont attiré leur attention. Ils ont vu Akwari entrer, passer par le tunnel et entrer dans le stade. Et lorsqu'il a franchi la ligne d'arrivée, alors qu'il avait la jambe bandée, sanguinolente, les quelques spectateurs qui étaient restés là, dans le stade, l'ont acclamé autant qu'ils l'ont pu. Ils l'ont félicité, ils l'ont encouragé parce qu'eux-mêmes ont été touchés par le courage dont Aquari avait fait preuve. Et lorsque, plus tard, un journaliste a demandé à Aquari pourquoi il n'avait pas abandonné, tout simplement, il a répondu « Mon pays ne m'a pas envoyé à 16 000 km pour commencer la course, mais pour finir la course. » Aquari, il avait un but très clair dans sa tête, dans son esprit. Et il a pu se relever et affronter la souffrance parce qu'il avait ce but, terminer la course, honorer le pays qu'il représentait, qu'il l'avait envoyé à 16 000 km. Son intérêt n'était pas tourné vers lui-même. Il avait de bonnes raisons de dire « Oh là là, moi, je vais terminer la course ». Non, il n'était pas fixé sur sa gloire à lui, sur sa dignité. Il était animé par cette volonté farouche d'être le meilleur représentant possible de son pays. Et il a continué la course parce qu'il agissait pour quelque chose de plus grand que lui, pour quelque chose qui le dépassait et pour quelque chose qui le motivait vraiment, qui allait le chercher au fond de ses tripes et qui lui a permis de se dépasser physiquement. Son but était clair et il a puisé sa motivation dans la clarté de son but. Alors que ma vie, que notre vie en tant que croyant puisse être la meilleure représentation de ce que Dieu veut que je sois. Amen. Les images sportives que Paul utilise aussi nous enseignent que nous sommes appelés à faire preuve de discipline. Et on peut se pencher sur un autre texte que l'on trouve dans la première lettre aux Corinthiens, justement, au chapitre 9, et on va lire des versets 24 à 27. Paul écrit aux chrétiens de Corinthe « Vous savez sûrement que les coureurs dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Courez donc de manière à remporter le prix. Tous les athlètes à l'entraînement s'imposent une discipline sévère. Ils le font pour gagner une couronne qui se fane vite. Mais nous, nous le faisons pour gagner une couronne qui ne se fanera jamais. Une couronne de série, je ne sais pas combien de temps ça dure. Ça ne doit pas durer très très longtemps. Mais Paul est en train de dire, là, nous, notre couronne, elle sera incorruptible, éternelle. C'est pourquoi je cours les yeux fixés sur le but. C'est pourquoi je suis semblable au boxeur qui ne frappe pas par hasard, qui ne frappe pas au hasard. Je traite durement mon corps, et je le maîtrise sévèrement afin de ne pas être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. L'entraînement d'un athlète, c'est un entraînement régulier. Pour un coureur, prenons l'exemple du coureur, son entraîneur lui indique quelle distance il doit courir par jour pour s'entraîner, combien de temps par jour il doit consacrer à son entraînement. Le régime alimentaire d'un sportif est très réglementé. Un sportif, ça doit consommer beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, éviter de boire du vin blanc, des boissons gazeuses, parce que ça crée des crampes. Donc il y a tout un régime là très rigoureux qui est en place. Plutôt manger des féculents le jour de la compétition. Le temps de sommeil est calculé. Et les athlètes sont capables de renoncements incroyables pour optimiser leur performance. Quand on les voit courir, quand on les voit sur leur vélo, quand on les voit taper dans un ballon dans un stade, on se dit que ça a l'air facile. Mais ce qu'ils sont capables d'accomplir, c'est le fruit d'un entraînement et d'une discipline extraordinaire. Dans l'Antiquité, à l'époque de l'apôtre Paul, pour être sélectionné aux Jeux Olympiques, il fallait suivre un entraînement de 10 mois dans sa ville d'origine. Et une fois que cet entraînement avait été fait, tous les athlètes qui avaient été sélectionnés se retrouvaient tous ensemble, un mois avant les Jeux Olympiques. Ils étaient regroupés dans une ville qui s'appelait Élis, qui se trouve au nord de la ville d'Olympie. Et là, ils continuaient l'entraînement. Ils allaient encore plus loin avec leur entraîneur personnel. Chaque athlète avait son entraîneur personnel à ce moment-là. Et ils le faisaient sous le contrôle des juges des Jeux Olympiques, qu'on appelait les Elanodis. Ils étaient tous soumis à un régime alimentaire très strict. La viande était interdite, par exemple. Ils devaient dormir à même le sol sur des peaux de bêtes. Bon, ça a bien changé, je ne pense pas qu'on impose ça aujourd'hui aux sportifs. Et les juges, les Elanodis, qui étaient là, évaluaient la force des athlètes, mais aussi leur comportement, leur caractère, leur comportement moral, leur éthique, on dirait aujourd'hui. et il fallait tenir tout ce dernier mois pour être finalement sélectionné et participer aux Jeux Olympiques. Et les athlètes qui étaient sélectionnés faisaient le chemin à pied entre Élis et Olympie, 57 kilomètres. Donc, une telle discipline permet de comprendre l'image qui est utilisée par Paul pour parler de sa discipline spirituelle. Là, on a lu les deux derniers versets. Lorsqu'il dit « Je traite durement mon corps, je le maîtrise sévèrement pour ne pas être disqualifié », il fait référence à cet entraînement très dur qui avait lieu à l'époque pour ceux qui participaient au jeu. Paul dit qu'il ne veut pas être un coureur qui ne sait pas où il va. Au verset 26, il dit « Je cours les yeux fixés sur le but ». Littéralement, c'est « Je veux pas courir à l'invisible ». Il se met dans la peau d'un coureur, c'est un peu comme s'il était parti dans la course et finalement il ne savait pas où était la ligne d'arrivée. Enfin, il court et puis en fait il ne voit pas la ligne d'arrivée. Et il prend aussi l'exemple du boxeur, puisqu'il dit qu'il ne veut pas être comme un boxeur dont les coups ne portent pas. Ça c'est vrai que c'est rageant pour un boxeur qui veut taper son adversaire et puis que l'autre il est tout le temps en train d'esquiver. Moi, je me souviens d'une scène que j'avais vue à l'école il y a longtemps, où il y avait un plus petit qui avait voulu attaquer un plus grand. Une bagarre qui a quelquefois sur la cour d'école. Et le plus grand, il mettait sa main sur la tête du plus petit, comme ça, et il le tenait à distance. Et puis le plus petit, il essayait de frapper, mais il battait l'air. Il n'y arrivait pas. C'est un peu l'image que Paul est en train de prendre, là. Donc Paul ne veut pas être ça, il ne veut pas être disqualifié. Son souhait, c'est d'être efficace. Son souhait, c'est d'atteindre son but. C'est pour ça qu'il savait qu'il devait mettre constamment en œuvre sa volonté pour être fidèle à Dieu dans tous les aspects de sa vie. Et il veut tout donner pour cela. Il veut tout donner, comme l'athlète qui donnait tout ce qu'il avait parce qu'il n'y avait qu'une seule récompense. Un seul remporte le prix, hein, dit-il. Aujourd'hui, on a un podium avec trois médailles et trois marches. À l'époque, il n'y avait pas de podium, il y avait un vainqueur, c'est tout. Notre vie ne peut porter du fruit que dans la mesure où nous sommes animés par la volonté d'appliquer la volonté de Dieu en toutes choses, dans tous les domaines de notre vie. Et ça demande une discipline personnelle. Ça ne vient pas tout seul. Parce que ce n'est pas naturel de faire la volonté de Dieu. Naturellement, ce que nous voulons faire, c'est notre volonté. Ce n'est pas naturel de lire la Bible, ce n'est pas naturel de prier. Mais plus je lis la Bible, et plus j'ai envie de la lire, en fait. Vous savez, c'est ça cette discipline. C'est que plus je vais prendre du temps pour lire la Bible, et plus je vais avoir envie de la lire. Plus je vais prier, et plus je vais avoir envie de prier. Ça, c'est une discipline spirituelle. J'ai toujours le choix. Soit je peux laisser parler ma nature, et à ce moment-là, on ne va pas être dans cette logique de discipline ou d'entraînement. Soit je prends la décision d'appliquer la volonté de Dieu. Mais c'est cette dernière solution-là, elle me demande de la discipline. À chaque fois que je remporterai la victoire sur moi-même, je deviendrai plus fort. Par exemple, si je suis tenté de réagir trop vivement et que je me mets en colère parce que je suis dans une situation, dans ma famille, sur mon lieu de travail, si je réagis trop vivement et si c'est ma nature qui s'exprime, là, je vais battre l'air. Je vais être là comme le petit qui essayait d'atteindre le grand ou celui qui cherche la ligne d'arrivée. Mais par contre, si je veux faire la volonté de Dieu et que j'ai la possibilité de l'emporter sur la colère, sur la critique ou sur le jugement qui va naturellement venir, je serai plus fort la prochaine fois pour pouvoir contrôler cette colère. C'est ça, c'est un entraînement spirituel. Et alors, on ne le fait pas forcément du premier coup, mais un athlète, il ne va pas y arriver du premier coup non plus. Il ne va pas non plus atteindre la meilleure performance du premier coup. Eh bien, spirituellement, ça fonctionne de la même manière. Tout s'apprend et ça s'inscrit dans une continuité. Et si nous nous mettons à la disposition du Seigneur, si nous croyons dans l'action de l'Esprit, nous pouvons grandir et cette discipline va nous servir. Et le dernier point que j'aimerais voir avec vous rapidement, c'est que ces images que Paul emploie nous montrent que nous sommes appelés à faire preuve d'endurance. On va revenir à Philippiens, ce qu'il dit au début de la lecture que nous avons faite tout à l'heure, chapitre 3, verset 12. « Je ne prétends pas avoir déjà atteint le but ou être déjà devenu parfait, mais je poursuis ma course pour m'efforcer d'en saisir le prix, car j'ai été moi-même saisi par Jésus-Christ. » L'endurance dont il est question dans ce texte, c'est le résultat de la discipline. Lors de... de son épreuve, de sa compétition, l'athlète est appelé à faire un effort soutenu. Qu'il soit sur le terrain pendant 90 minutes à courir derrière un ballon, à frapper dans un ballon, ou qu'il court 100 mètres en 9 secondes, il doit inscrire son effort dans la durée. Et s'il se relâche à un moment donné, il ne peut pas remporter la victoire. Ce que dit ici Paul, il le dit pour sa vie spirituelle. Il est en train de dire, mais tout n'est pas encore parfait en moi. Il y a encore des choses qui sont à améliorer, mais je ne veux pas me relâcher. Je ne veux pas me relâcher. Pourquoi ? Parce qu'il dit, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Paul a été touché par l'Évangile. Il a été remué dans son existence, au plus profond de lui-même. Il veut honorer ce que Christ a fait pour lui, ce qu'il a accompli à la croix pour lui, et ce qu'il veut faire maintenant au travers de son engagement. Et dans notre vie, nous pouvons être confrontés à la lassitude. Nous pouvons être touchés par la souffrance physique. Nous pouvons être touchés par la souffrance morale. Nous pouvons connaître la déception. Nous pouvons connaître la fatigue. Ce sont des choses normales de la vie. On ne peut pas vraiment les éviter. Mais quand ces choses sont là, on serait tenté de se relâcher. C'est dans ces moments-là qu'on n'a plus envie de lire la Bible. On n'a plus envie de venir à l'église. On n'a plus envie de rencontrer les chrétiens, les chrétiennes. Le fruit de notre discipline personnelle, c'est la force que Dieu nous communique quand nos ressources font défaut. Naturellement, nous sommes à bout, nous sommes incapables de continuer, mais ma relation personnelle et la foi que j'ai placée en Christ, ma relation avec Dieu, ma relation avec Christ me permet d'être au bénéfice de sa grâce. Et c'est ce qui va me permettre de continuer, même si la fatigue est là, même si la déception est là. J'aurais terminé avec cette histoire d'un personnage que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Eric Liddell. Eric Liddell, c'est un chrétien, fils de missionnaire, il est né en Chine, là où ses parents exerçaient leur ministère, et c'était un sportif accompli, c'est quelqu'un qui avait commencé sa carrière sportive en tant que rugbyman, et puis ensuite, il s'est engagé dans la course. Et son histoire a été immortalisée par un film que vous avez peut-être vu, et si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille vraiment, qui s'appelle « Les chariots de feu ». C'est excellent. Et Eric Liddell a été sélectionné pour courir le 400 mètres aux Jeux Olympiques de Paris en 1924. Normalement, il devait courir le 100 mètres, parce que c'était son épreuve de prédilection. C'était l'épreuve dans laquelle il était le plus performant. Mais la course du 100 mètres avait été programmée un dimanche. Et ce jour-là, il était invité à prêcher dans une église protestante de Paris. Donc, Eric Liddell a préféré courir le 400 mètres, alors qu'il avait beaucoup moins de chances de gagner cette épreuve. Mais pour lui, la priorité était claire dans son esprit. Il a participé à la course du 400 mètres et il a remporté la victoire avec 6 mètres d'avance sur tous les autres concurrents. Et lors de cette course des 400 mètres, alors qu'il n'était pas le favori et que ce n'était pas là où il était le plus fort, il a battu le record du monde du 400 mètres. Et la victoire a suscité l'admiration de tous. Et voilà ce qu'Eric Liddell a déclaré. Il a dit, le secret de mon succès sur les 400 mètres est que j'ai couru les 200 premiers mètres le plus rapidement que j'ai pu. Puis pour les 200 derniers mètres, avec l'aide de Dieu, j'ai couru encore plus vite. Eric Liddell, il disait que sa force, elle venait de Dieu. Il a dû accomplir un effort supplémentaire et naturellement, c'était très, très difficile pour lui. Mais il l'a accompli sans se relâcher parce que Dieu lui a communiqué la force dont il avait besoin pour continuer la course. Et c'est exactement ce que nous sommes appelés à vivre les uns et les autres sur le plan spirituel. Dieu, notre Père, est un Dieu qui ne nous laisse pas seuls quand nous sommes abattus. Il est à nos côtés. Il vient vers nous, il nous tient, il nous accompagne. Et si nous finissons la course, c'est par sa grâce. C'est parce qu'il est présent dans notre vie. C'est parce que son esprit est avec nous. Et c'est possible d'être relevé quand nous sommes abattus, parce que Jésus a été abattu pour que nous, nous soyons relevés. Il a donné sa vie pour le pardon de mes fautes. Et quand j'accepte que Jésus règne sur ma vie, Dieu prend en charge ce que moi, je ne peux plus prendre en charge. La foi chrétienne, ce n'est pas de la religion, ce n'est pas observer des rites. La foi chrétienne, c'est être en contact, en connexion avec ce Dieu vivant qui veut être avec nous dans chaque aspect de notre vie. Et là où vous ne pouvez plus, là où vous vous sentez sans force, il est là pour vous donner ce dont vous avez besoin. On pourrait reprendre ce chant pour terminer, où on parlait tout à l'heure, ta présence dans ma vie. Est-ce que vous pouvez revenir ? Vraiment, à tous ceux qui, ce matin, désespèrent de ce monde, qui sont là présents ou peut-être qui nous écoutent par Internet, à tous ceux qui ne voient aucune solution et qui se disent « Mais dans quel monde vivons-nous ?» À tous ceux qui n'ont plus aucun repère, courage. Courage pour vous. Placez votre foi en Jésus parce qu'il vous remplira de sa présence. Et il répandra la joie et la paix dans votre cœur. Il mettra un espoir, une espérance que pour l'instant, peut-être vous ne voyez pas, vous ne captez pas. À tous ceux et à toutes celles qui sont dans l'incertitude en raison de la crise que nous traversons. À tous ceux et toutes celles qui ne parviennent plus à se projeter parce qu'ils ont perdu leur emploi, parce qu'ils ont fait faillite, parce qu'ils ne sont plus à la tête de l'entreprise qu'ils avaient fondée, dans laquelle ils s'étaient tellement investis. Courage, parce que Dieu est un Dieu qui pourvoit. Dieu est un Dieu qui connaît votre peine. Dieu est un Dieu qui ne veut pas vous laisser tout seul. Dieu est un Dieu qui a un plan pour votre futur, pour votre avenir. À tous ceux et à toutes celles qui luttent contre la maladie, à tous ceux et à toutes celles qui sont touchés dans leur chair par la souffrance, à tous ceux et toutes celles qui sont fatigués par les traitements, qui sont lourds, qui sont pénibles, courage, parce que Dieu est un Dieu de compassion. Il est auprès de ceux qui souffrent. C'est un Dieu qui fortifie ceux qui souffrent. C'est un Dieu qui libère, qui guérit ceux qui souffrent. À tous ceux et à toutes celles qui sont engagés dans la foi et qui sont confrontés à l'opposition, qui sont confrontés à la moquerie, qui sont confrontés à l'irrespect parce que leur démarche n'est pas comprise de leur entourage, parce qu'ils vivent dans un contexte qui leur est hostile, courage. Vous avez fait le bon choix et Dieu vous soutiendra pour aller jusqu'au bout. Il est avec vous dans la course que vous avez entamée avec lui. Vous n'êtes pas que sur la ligne de départ. Maintenant que vous êtes parti, il sera avec vous jusqu'à la ligne d'arrivée. Croyez-le, courage. À tous ceux et à toutes celles qui luttent contre un trait de leur caractère, à tous ceux et toutes celles qui luttent contre une addiction, peut-être contre un péché, et qu'ils ont du mal à se démêler de ce qu'ils sont en train de vivre, d'échapper à cela, et ils ont l'impression d'être déterminés constamment dans leur existence à cause de cela. Courage ! Dieu est un Dieu qui pardonne, et c'est un Dieu qui continue d'accompagner ceux qui aspirent authentiquement à vivre libre. À tous ceux et toutes celles qui passent par le deuil, à tous ceux et toutes celles qui passent par l'absence d'un être aimé, courage ! Parce que Dieu se tient aux côtés de ceux qui ont besoin d'être consolés. Parce que Dieu est celui qui est capable de combler le vide, l'absence qui est dans le cœur. Il est là dans son amour et il peut combler cette absence. À tous ceux et toutes celles qui sont appelés par Dieu et qui ne voient pas leur ministère se mettre en place. À tous ceux et toutes celles qui veulent servir Dieu mais qui s'interrogent comment faire, qui s'interrogent sur leur ministère. Courage ! Parce que ce que Dieu a mis dans votre cœur et ce qu'il a prévu pour vous s'accomplira. Il ne revient jamais sur sa parole. À tous ceux et toutes celles qui s'interrogent sur l'avenir de cette église, sur Amy, l'église de Mantes en Yvelines, qui se demandent comment le projet qui nous anime depuis des années pourra encore sortir de terre étant donné les circonstances actuelles. Je dis courage, parce que aucune circonstance ne pourra s'opposer à ce que Dieu a prévu. Et que ce plan, c'est qu'Amy soit une source de bénédiction pour Mantes et pour sa région. Courage à chacun d'entre vous, quelles que soient les choses que vous connaissez aujourd'hui, quelles que soient les choses qui vous animent, Dieu est là et il sera votre force pour pouvoir aller encore plus loin. Dieu nous a touchés, nous l'avons chanté, on va le chanter encore. Que le Seigneur nous bénisse. Seigneur, nous t'invoquons, nous te demandons ta grâce et ta bénédiction. Je te demande de bénir mes frères, je te demande de bénir mes sœurs, je te demande de bénir mes amis rassemblés, qu'ils soient ici ce matin ou qu'ils nous entendent au travers d'Internet. Viens leur donner la force. Viens leur donner le courage dont ils ont besoin. Viens les renouveler, les fortifier. Nous voulons ouvrir notre cœur. Parce que Seigneur Dieu, lorsque nous le faisons, c'est nous ouvrir à ta présence. Afin que tu aies la possibilité d'agir en nous. Nous voulons saisir par la foi tout ce que tu peux accomplir dans nos cœurs et dans nos vies. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen.